Bonjour Yves Pagès, merci de
Bonjour.
me recevoir dans les locaux de Vertical. Nous parlons de Portrait craché qui vient de sortir dans la collection Minimal. En guise d'introduction de Portrait craché ou en avertissement, et alors c'est une manière d'avertir le lecteur, il y a cette définition du mot spécimen. Quatre définitions. Spécimen, première définition, espèce d'individu en liberté surveillée. Ce sondage a été réalisé sur un échantillon de 987 spécimens représentatifs de la population du zoo de Vincennes, dépêche AFP. Deuxième définition. Exemplaire d'une revue ou d'un livre cédé à titre gracieux, synonyme gratis, franco, à l'œil. Troisième définition. Ancien. S'employer jusqu'au début du XXIe siècle à propos d'une personne dont la séquence ADN ne peut être achetée, ni échangée, ni vendue séparément. Quatrième définition, familier. Drôle d'archétype, voire zozo, zig ou zèbre. Yves Pagès, pouvez-vous commenter ces quatre définitions de spécimen?
Ben, écoutez, c'est une tentative d'autoportrait, tout simplement. D'autoportrait de moi comme un autre, comme de moi comme être quelconque, être lambda, voilà, en liberté surveillée, en même temps qu'il ne souhaite pas être vendu séparément. La troisième définition étant que je suis aussi. Ah oui, c'est dans le vendu séparément, c'était la troisième définition. Et sinon, je suis aussi dans la gratuité de l'échange, hein, parce que écrire, c'est partager. Hein, c'est partager cette chose qui n'est pas encore totalement privatisée, qui est le langage. Et quatrièmement, je suis un drôle d'archétype au sens d'un zozo, d'un zig, d'un zèbre ou d'un zébulon, j'ai oublié zébulon, au sens où j'aime aussi non seulement manier l'humour, mais ça c'est pas à moi d'en juger, mais je, donc l'ironie fait partie de mon écriture, mais c'est surtout que j'aime la faute de goût. J'aime essayer de faire, comment dire, émerger au cœur de l'esprit de sérieux, faire tâche, faire que finalement les savoirs ou la séquence lyrique d'un texte, etc., à un moment donné, il y a un grain de sable, il y a quelque chose qui l'a fait achoper, qui l'a fait bégayer, qui l'a fait bifurquer. Voilà. Donc ça m'intéresse, et en particulier le fait de faire le zig au cœur même d'un texte qui peut apparaître, voilà, émotivement ou intellectuellement ou réflexivement, ou, etc. D'un autre genre, d'un bon genre, et faire du mauvais genre dans le bon genre, et pas l'un quelque part et l'autre ailleurs, ensemble.
Donc cette définition de spécimen, Yves Pagès, s'adressait à l'auteur, vous, plutôt qu'au portrait, aux personnes, aux
Si,
personnages que nous allons rencontrer.
non.
Je le prenais, cette définition, comme
Mais j'ai
étant
essayé.
attribuée aux personnages, aux personnes que nous rencontrons dans le livre, et nous en rencontrons beaucoup, nous en rencontrons
Non,
100
alors,
dans vos portraits crachés.
bon, vous avez bien compris qu'évidemment, en vous disant que cette fausse définition dictionnaire est une forme d'autoportrait masqué de l'auteur, c'est un autoportrait masqué de l'auteur, mais qui ne peut se comprendre qu'à travers la dédicace du livre, ce livre étant écrit et dédié surtout à la première personne du pluriel. Donc ça veut dire que ce je-là, le je qui écrit, c'est celui d'un spécimen quelconque. Je suis le nous de l'ensemble de ces portraits crachés, et l'ensemble de ces portraits crachés est traversé par des souvenirs, des transpositions, y compris de moi-même.
Et
Il y
alors,
a du je dans le nous, il y a du nous dans le je, voilà.
ces portraits crachés, c'est votre titre, au nombre de 100, ne sont-ils pas également des portraits cachés? On parlait de lapsus tout à l'heure, plusieurs fois dans ma tête, je parlais de votre livre en parlant de portraits cachés, ces moments de vie en fait que la personne veut cacher, parce que dans ces portraits, il y a beaucoup de moments de vie un peu honteux.
Oui, il y a un processus de révélation au sens, on pourrait dire, photographique du terme. C'est-à-dire, c'est caché, c'est à l'intérieur, mais parce que c'est obstrué par un manque de lumière, ou parce que c'est surexposé par, au contraire, une luminescence trop importante, tout d'un coup, on ne voit plus les choses, ou alors parfois parce que, comme dirait Edgar Poe et Freud après lui, il y a des questions de lettres volées, c'est-à-dire c'est un portrait caché à cause du fait même que parfois les choses sont comme le nez au milieu du visage, on ne les voit pas. Donc en fait, moi, je restitue simplement dans des situations qui sont évidemment extrêmement concentrées, où j'extrémise, je maximalise les paradoxes, les contradictions d'un personnage. Mais j'ai peu de mots, peu de lignes, peu d'éléments, peu de... Donc je dois me concentrer vraiment sur une situation qui vraiment arrive à faire culminer totalement les antagonismes intérieurs d'une personne. Et à ce moment-là, apparaît probablement des traits, des éléments biographiques, des circonstances comme ça qui, en effet, sont de l'ordre du caché, de l'obscur, de l'inavouable, et parfois du honteux.
Mais ils sont pas cachés, ils sont crachés.
Ah, mais ils sont pas cachés, ils sont crachés. Oui, oh, portrait craché, je dirais que voilà, c'est l'expression. Moi, je travaille souvent pour les titres et pour d'autres choses à essayer de récupérer des bon, bah, toutes ces expressions idiomatiques de la langue, moi, qui me touchent beaucoup. D'abord parce que parfois on a oublié son origine, qui est très enfouie. Portrait craché, je sais même pas d'où ça vient. D'ailleurs, je m'en suis même pas préoccupé. Donc c'est ce mot-là qui m'a plu en le mettant au pluriel, parce qu'il y avait déjà un livre qui existait avec portrait craché au singulier, je crois, de Jean-Marc Roberts, qui vient de décéder, qui m'a cédé la possibilité de reprendre ce nom en y mettant le pluriel. Je le remercie encore de façon posthume. Je ne sais pas, cette dimension dans une petite intro qui fait heureusement que personne ne s'inquiète, moins d'une page, je dis parce que voilà, c'est comme c'est craché en l'air et puis bah, le crachat va retomber, va nous pleuvoir dessus. Ça, c'est une vision de l'effet retard. Voilà, c'est des portraits comme ça qui en effet jouent sur oui, une courbe comme ça du crachat qui nous retomberait dessus avec le temps, comme si quelque chose était différé. Ça correspond par exemple à l'idée que je dirais les 9 dixièmes, des personnages ici silhouettés, croqués, parce que c'est plutôt de l'ordre de l'ébauche, de l'esquisse, sont des gens que j'ai croisés, que j'ai connus plus ou moins directement, etc., et que j'ai en grande partie oubliés. Hein, donc c'est un travail pour moi qui est aussi un travail de laisser le temps agir et le tamis du temps finalement laisser à travers son maillage. Les 9 dixièmes des choses sont anodines, donc un intérêt s'en vont, s'enfuit, puis il reste comme ça des détails vrais, des bribes de phrases tout d'un coup marquantes, des bouts de situation, des choses qui sont tellement marquantes que 10 ans après on s'en souvient. Moi, je ne prends pas de notes sur le moment. Et ensuite, donc, le crachat, là, vous retombe dessus. Ensuite, la dimension du crachat, je crois pas que ça décrit beaucoup. J'écris pas tellement en mollardant, comme on disait en cours de récréation, quand on disait jeune, je suis pas un écrivain très de comment dire, de la violence viscérale, tout ça. Il y a des auteurs que j'aime bien qui sont comme ça, mais moi, je sais pas comme ça que j'écris. J'ai plutôt je travaille plutôt sur la distanciation et puis ensuite avec des moments émotifs, mais en ayant assez mis à distance les choses. Donc je ne sais pas. Alors peut-être que dans l'argot des peintres, un portrait craché, ça, il y aura peut-être une définition que je ne connais pas et qui irait très très bien à mon livre, mais il y a une part d'arbitraire dans les titres, en fait, qui m'excède, hein, dont je ne comprends pas complètement ce qu'elle signifie.
Dans ce mot aussi craché, on peut sentir une critique sociale sous-jacente. Il y a la question du point de vue de ces 100 portraits. C'est aussi le propos de répétition générale qui clôt le livre. On peut se poser d'ailleurs la question de répétition générale de quoi? Il y a une forme de critique sociale. Enfin, vous n'êtes pas neutre. On vous sent affecté quand le personnage est, on va dire, affecté de. Socialement, économiquement, on vous sent il y a une certaine empathie, il n'y a pas qu'un retrait, il y a aussi de l'empathie, et on sent chez vous une volonté, un soubassement politique en tout cas.
Oui, bon,
C'est un grand mot, effectivement, mais.
Voilà, c'est un grand mot, ça fait très peur.
Bien entendu, oui.
Alors, partons de la critique sociale, on verra où on arrivera, si on arrivera aux politiques. Non, la critique sociale. Comment dire? C'est-à-dire que je suis très attaché à dire quelque chose en préambule. C'est en tant que lecteur, en tant qu'auteur, en tant qu'éditeur, les intentions de l'auteur ne m'intéressent pas. Ça veut dire que ce qui m'intéresse, c'est pas les auteurs engagés, les auteurs comment dire, qui essayeraient de faire passer un message dont ils maîtriseraient la portée à l'intérieur de leurs ouvrages. Ça, c'est pas ma famille. C'est pas ma famille d'écriture. Donc ça veut dire que je suis plus proche de ce que vous avez dit, c'est-à-dire, oui, il y a des moments de distanciation et d'empathie envers des personnages qui vibrent à certains moments émotivement. Oui, il y a une vibration, oui, je suis à l'unisson d'une tristesse, d'une rancœur, d'une révolte, je suis interloqué parce que je suis en train d'écrire et ça se sent. À certains moments et à d'autres moments, je reprends complètement... comment dire, le masque d'une certaine froideur objective, et puis ça bouge. Il y a une dramatique aussi de mon rapport à ces personnages. C'est-à-dire que je zoome, je les reprends en plan large, je me rapproche, je joue avec, y compris en effet, ma propre émotion. Et j'en joue jusqu'au point de perdre le fait que je n'ai pas écrit telle ou telle chose pour dire c'est dégueulasse que ce que je pense réellement par ailleurs. Que le 1,5 million des gens qui sont au RSA sont soumis à des questionnaires ignobles et avec des visites domiciliaires. Et si jamais ils ont menti sur le fait qu'ils sont pas célibataires, ils sont en couple, on leur retire les 400 euros qui sont même pas ce qui permet d'être en dessous du seuil de pauvreté. Si je vais écrire ça, je vais écrire un livre pour le dénoncer, etc. Là, je crois qu'il y a 10 lignes qui sont un peu sur sujet dans le livre et qui vont toucher à une visite domiciliaire, voilà, qui fait qu'on a trouvé qu'une jeune femme avait été 3 fois en Italie dans l'année, donc ce train de vie était totalement inconciliable avec les minima sociaux.
Je vous coupe, je vais lire le passage.
Allez-y.
Elena, soi-disant pauvre et célibataire, ne touchera plus le RSA. Suite aux 2 courriers comminatoires et une visite de contrôle domiciliaire, on l'a radiée pour fausse déclaration au vu d'un flagrant délit de concubinage avec un individu salarié. En outre, ses relevés bancaires trahissaient, dans l'année écoulée, quelques notes de restaurants hors de prix, des emplettes cosmétiques de grande marque ainsi que 3 voyages d'agrément par voie ferroviaire, un à Venise, 2 à Padoue, soit un train de vie incompatible avec les minima sociaux.
Ben voilà, mais même sur ces 7 lignes-là, vous voyez bien comment, à un moment donné, je dis à les soi-disant pauvres, j'emprunte la langue stigmatisante de l'administration. Et puis ensuite, je vais jouer sur le fait qu'elle est en délit de concubinage avec un salarié. Et là, ça devient... je joue de l'absurdité de la langue gendarmesque et bureaucratique, ce qui est encore autre chose. Et puis ensuite, et je joue encore avec l'espèce de presque jeu de mots sur le train de vie. Et ensuite, quelque part... au sein de ces 8 lignes, vous allez sentir que je mets à jour de façon documentaire un fait social qui existe, quelque chose dont on parle très peu, c'est-à-dire ces visites domiciliaires, puisque, comme l'avait dit Michel Rocard, en fait, depuis lui l'inventeur du RMI, l'inventeur honorable de ce point de vue-là du RMI, il avait bien dit que c'était en effet comment dire, le minima social et l'aide sociale qui était la plus contrôlée qui soit, etc., même si les gens ont l'impression que les gens sont assistés. De fait, je joue sur plusieurs registres et quelque part, oui, je suis il y a à la racine de ce petit texte, qui est peut-être le moins fictionnel de tous ceux de ce recueil, hein, il y a un travail de documentaire-fiction, très souvent. Bon, là, la fiction est assez réduite à très peu, mais vous allez sentir quelque part, mais c'est dans la langue que vous allez le sentir, qu'à un moment donné, oui, je suis outré, je suis révolté par ça ou je sais pas quoi, mais je vous défie de trouver un seul endroit dans ce passage où je dirais que c'est scandaleux, ou etc. Enfin, moi, j'ai aucun commentaire à faire à tout ça. Les gens se débrouillent avec ça comme ils veulent. Alors, pour le dire autrement, cette question de la critique sociale, c'est je prends des personnages qui sont parfois des angles morts de la société, mais pas tous. Là, il y a des gens qui peuvent être en effet dans... comment dire, parmi les 7 millions de précaires dont la condition sociale n'est défendue ni reconnue par personne, mais il y a aussi des gens qui vivent très bien là-dedans. Il y a des chefs de clinique chirurgiens qui n'ont pas de rapport avec la crapule Cahuzac, mais il y en a un là comme ça. Alors, moi, je travaille ce chef de clinique, il est à la retraite, et puis finalement, comme il est dans une toute petite ville, finalement, tous les administrés de la ville ont déjà été opérés par lui. Donc, il a ce rapport avec les cicatrices et les points de suture de tout le monde. Et du coup, il s'enferme chez lui. Donc là, on travaille quelque chose qui est beaucoup plus subtil, c'est comment un notable, finalement, par sa profession, finalement, c'est lui-même, comment dire, enfermé, c'est lui-même mis dans un point de non-retour, et finalement, le maximum de sa notoriété est en même temps le lieu de sa claustration et de son enfermement. Donc c'est plutôt sur ce type de choses que je travaille, c'est-à-dire qui sont d'essayer de découvrir des paradoxes de la condition humaine, des paradoxes de la vie et de ses hauts et ses bas, des hauts et des débats, comme je dis souvent, et de prendre tous ces points d'ambivalence, d'humeur changeante, de hiatus comme ça, qui m'intéressent et qui peuvent toucher à des choses qui sont intimes, qui sont voilà, d'ordre de la fantasmagorie ou du parcours existentiel, mais aussi du parcours professionnel et des injustices sociales criantes, sur lesquelles moi je ne travaille pas en tant que dénonciateur de ces injustices sociales. Je vois qu'est-ce qu'elles produisent, qu'est-ce qu'elles fabriquent, et moi je me pose la question de comment je vais raconter ça et trouver le moment où il y a une bascule langagière qui moi, m'amuse aussi.
Disiez Yves Pagès que environ 70% des portraits dans Portrait Craché sont des personnes que vous avez connues, que vous avez oubliées, et qu'il vous restait quelques bribes vraies. Je me posais cette question de comment créer autant de personnages. Il y a 100 personnages. Et du coup, j'ai un début de solution. C'est des personnes que vous avez croisées à un moment donné, mais que vous avez connues. Un tout petit peu peut-être, et que vous prenez juste une petite bribe, expliquez-moi un peu comment ça a
Oui,
fonctionné
alors.
pour vous. J'étais parti sur 100 portraits imaginés, mais en même temps, ils sont très très réalistes. Ils sont même on ne peut plus réalistes.
Écoutez, c'est oui, pour la plupart, en effet, pour la plupart, ce sont en effet des gens que j'ai croisés, fréquentés, côtoyés, dont j'ai entendu très directement parler. Il y en a très peu dont je ne vois pas le visage. Quand je lis ces textes, parce que ça m'arrive et j'aime bien lire ces textes, eh ben, l'air de rien, je me rappelle des vrais gens, dont les prénoms sont
D'accord.
autres. Donc il y a des fantômes derrière. Moi, j'imagine assez peu. Alors ensuite, dans l'interstice de l'amnésie partielle qui fait que je me souviens de très peu d'éléments de ces personnes, dans les interstices, j'invente ce que je veux. Hein, c'est-à-dire la meilleure façon pour moi de rendre hommage à leur mémoire, pour certains ils sont morts, et ben ils sont morts en tout cas à ma vie puisque je ne les côtoie plus, donc c'est devenu des fantômes. Moi j'écris à partir de ces fantômes. Ben, la meilleure manière de les rendre hommage, c'est de les imbriquer dans par exemple le demi-portrait de quelqu'un d'autre. Donc il peut y avoir comme ça des imbrications. Et puis dans cet espace-là, c'est évidemment la fiction, l'invention, le mentir vrai, la mythomanie essentielle de toute écriture qui reprend le pouvoir. Hein. Donc c'est un de ce point de vue-là, le documentaire fiction, qui est d'ailleurs quelque chose que j'apprécie assez, disons, au cinéma. C'est vrai que là, en littérature, je crois qu'on peut beaucoup plus assumer quelque chose qui est plus compliqué au cinéma. C'est-à-dire de véritablement, on n'y retrouve plus ces petits, on ne sait plus ce qui est inventé, ce qui est vrai, et je défie quiconque de retrouver véritablement les lignes claires de l'authentique personnage de départ, et puis ce que j'aurais rajouté. Les gens peuvent se tromper énormément, j'ai déjà fait l'essai. Donc oui, par exemple, là, un hémiplégique qui a fait handisport, il y a des éléments. Et qui a été obligé d'être changé de catégorie et transformé en débile léger alors qu'il avait qu'un problème moteur pour pouvoir être l'haltérophile qui ferait gagner son école spécialisée. Oui, je l'ai rencontré, je le connais, ils ont né au bord des Halles, je le connais indirectement par des gens, mais je l'ai croisé plusieurs fois dans ma vie. C'est une des personnes qui m'a fait le plus rire et qui avait d'ailleurs une ironie sur lui-même dont je ne suis pas arrivé à rendre compte. Par exemple, le zonard qui tourne comme un lion en cage, et j'ai fait cette métaphore. Du lion en cage parce qu'il était complètement sous produit stupéfiant à la station de métro à côté de la chambre de bonne où j'écris. Je le connais pas, mais je l'ai vu. Je l'ai vu 200 fois faire des 8 sur le macadam en tournant avant de demander des pièces d'argent. Et vraiment m'est venue l'idée qu'il ressemblait à un lion en cage qui fond donc cette forme de 8, et voilà. Alors, si vous voulez le processus exact de création d'un portrait craché, c'est il me fait penser à ce fauve en cage. Je me renseigne sur la névrose et le syndrome de captivité sur les animaux. Et ce 8 ressemble pour moi à l'écriture au sol, au marquage au sol de l'infini. Voilà. Donc, à partir du moment où j'ai ces trois éléments, c'est-à-dire un élément un peu comme ça, rêveur, imaginaire, le sigle de l'infini marqué, un élément où je me documente, qui va être, par exemple, l'analogie avec le fauvencage, puis il y en a d'autres d'analogies aussi, les loopings, etc., des aviateurs, et la mémoire de ce type bouleversant, 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 qui speedait sur place comme ça, et qui piétinait sa vie sur place, et qui en effet quelque chose qui m'a bouleversé. Voilà. Donc je lui ai rendu hommage, mais à travers quelque chose qui le déplace ailleurs. Donc je ne suis pas du tout, en ce sens-là, je suis vraiment, j'espère, un frère d'armes de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Frédéric Sieyès, que vous avez interrogé très récemment, et que j'ai dit avec un immense plaisir, et on en a souvent parlé ensemble, je ne suis pas un écrivain réaliste. Je ne m'intéresse pas ni au réalisme, ni au néoréalisme, ni au naturalisme, ni à l'hyperréalisme. Je puise dans le réel des choses que je sublime, que je transforme, que je métamorphose, que j'anamorphose, etc. Et c'est ça qui m'intéresse. Alors ensuite que les gens, dans la réception qu'ils peuvent avoir du texte, se disent « Waouh, oui, il y a des portraits cachés du réel. Ah, mais en fait, le réel... » Parce que eux-mêmes, le réel, ils le ressentent bien avec leur propre poésie intérieure. Et de temps en temps, ma façon de le faire rentre en contact, j'espère, avec la façon dont tout le monde a une perception qui est une perception fictive, fictionnelle, fictionnalisée, poétisée du réel. Mais sinon, on serait des robots, on crèverait.
D'où l'expression de documentaire fiction ou de fiction documentaire, dont vous donnez la force par la littérature, alors que le cinéma ne pourrait pas être capable de cette force pour reprendre un autre art. Et ça, vous le théorisez, cette idée, ce concept de fiction documentaire ou de documentaire fiction?
C'est-à-dire que c'est vrai que tout d'un coup au cinéma, depuis une quinzaine d'années, j'ai vu des choses qui m'intéressaient de ce point de vue-là. Je me suis dit, tiens, enfin, pour le dire autrement, je pense qu'on gagne beaucoup dans l'écriture contemporaine depuis quelque temps à assumer le fait qu'on est moins influencé forcément par, comment dire, la bibliothèque de ses lectures, mais aussi par d'autres arts. Et je dirais que sur le travail des portraits crachés, une autre évidente influence est pour moi le travail, le motif du travail de la série dans l'art contemporain, aussi bien dans les photographies, dans les installations, etc. C'est vrai que qu'il y a un travail sur la série depuis Boltanski, mais évidemment infiniment d'autres gens, etc., qui m'a touché. C'est un des éléments de l'art contemporain qui me touche. Toute la mise en série de tout ne me plaît pas forcément, mais qui pour moi, dans ce rapport à l'écriture en fragments, il y a une marqueterie, un agencement de ces petits portraits, une alternance des sexes, des conditions, des situations, que j'ai pensé pour que finalement il y ait sans cesse de la variation, de la surprise, du déplacement, et qu'il y ait des choses qui résonnent et qui fassent résonner ensemble des gens qui a priori n'aurait pas, dans le cloisonnement et le jeu de rôle de la condition humaine capitalistique, normalement, ils ne devraient pas jamais se rencontrer. C'est l'essentiel, puisque tout l'ordre social est entièrement conditionné, non seulement sur des différences de revenus ou de conditions de vie, mais surtout que les gens ne puissent plus jamais se rencontrer, parce que s'ils se rencontraient, ils s'apercevraient qu'ils auraient du commun, des choses à se dire, du commun. Or, moi, j'écris à la première personne du pluriel, comme je le dis en riant, parce que je crois qu'il y a du commun entre un trader et un junkie qui tourne en rond par terre. Il y a du commun. Et c'est à partir aussi de ce commun qui est déposé dans la langue, qui est déposé dans l'imagination, qui est déposé dans tous les autres qui sont déposés en moi-même. Et je n'écrirais pas si la mémoire des autres ne s'était pas déposée en moi-même, dans la langue, dans mon imaginaire, dans mon émotion. Et donc je crois que la série, ça permet de faire je dirais, du modèle réduit, de la maquette. Mon frère, il adorait faire des petites maquettes. Moi, je fais de la maquette de comédie humaine. Balzac, il faisait des comédies humaines énormes. Tant ou long, moi, je suis Balzac, mais alors tendance Minimoy.
Parce qu'il y a cette problématique dans Portrait crachés, effectivement, de la forme courte de la série. Vous la rapprochez à l'art contemporain, à Boltanski, effectivement. Il y a un art de la série, un art narratif de la forme courte, si courte qu'elle casse tout développement. Mais vous l'avez bien expliqué, bien entendu, c'est une mise en commun et un rapprochement des personnes, de personnages qui ne seraient pas ensemble s'il n'y avait pas cette mise en commun et cette forme courte.
L'art du bref, c'est, j'essaye de temps en temps de, quand j'y arrive, d'écrire ce que j'appelle moi des matrices. Hein, on appelle ça des romans. Moi, les romans, c'est une poubelle, il y a n'importe quoi dans les romans. Je dirais, moi, c'est des matrices fictionnelles qui durent longtemps. Voilà, et qui permettent d'accompagner quelqu'un pendant plusieurs centaines de pages, donc ça veut dire de l'accompagner dans l'écriture pendant plusieurs mois. Et puis il y a cette forme-là, moi, dans la centaine de portraits crachés qu'il y a là, il y a des choses qui avaient destin à demeurer bref. Et puis je pense qu'il y en aurait une 15 ou 20 qui pourraient être le pitch, le résumé, le prétexte de départ de longs romans. Et j'ai presque un plaisir, comment dire, sarcastique. Puéril de petits sacripants à les gâcher. J'espère que, et si quelqu'un écrit un long roman sur le sujet, je dis, ah, moi je l'ai déjà fait, mais en 15 lignes. Non pas que c'est pas une punition pour ce bon sujet, la fausse bonne idée, le sujet de roman. Moi je crois pas au sujet de roman. Tous les sujets peuvent être traités. Si par exemple tous les romanciers de la Terre n'écrivaient que tous sur le même sujet, ils feraient des livres différents, donc on s'en fout. Mais ce qui m'intéresse, c'est en effet dans l'art du bref, dans ces 15 lignes gâchées, mais là je remplirais au terme de peintre peut-être. Hein. Comme ça, et ben finalement, il y a un jeté, il y a un élan, il y a une vitesse, il y a un travail sur la frustration, il y a un travail sur l'apparition-disparition, il y a un travail poétique tout simplement aussi, parce que là on travaille à la virgule près, qui moi, d'hyper-concentration, qui moi me plaît énormément, parce que comme lecteur de romans, par exemple, quand un roman me touche depuis que j'ai 16-17 ans, quand un roman me touche, moi j'en lis trois pages, je le repose. Je le reprendrai demain. C'est tellement. Si on lit un roman de Jean Genet, on lit pas ça dans le train en 1 h 3/4, c'est pas possible. Ça retient trop l'attention. Donc moi, comme j'ai toujours lu tous les textes que j'ai lus, comme par bouffée, par fragments, je crois en effet qu'en ce moment, et ça commence à faire un certain temps, et sur mon blog archive.net, de plus en plus je travaille sur cette écriture courte, je crois que c'est mon échelle. Je crois que c'est de plus en plus mon échelle. Et c'est peut-être aussi une forme de résistance subversive, avec un enjeu là pour le coup formel et non politico-social, qui est peut-être de résister à l'envahissement insupportable de la forme canonique du roman, de la fiction long cours, et puis avec ce modèle américain en plus d'y rajouter, comment dire, de le déployer sur 400 pages, parce que sinon c'est qu'on est un peu petit bras, petit couteau. Non, mais non, je sais pas, il y a des choses qui méritent en 15 lignes qui ont une puissance de vue dans le non-dit, dans l'ellipse, dans la retenue, dans la maîtrise qui, moi, m'intéresse. Enfin, voilà, alors, c'est peut-être en vieillissant, je suis déjà peut-être un vieux sage. Maître Pau.
Merci beaucoup, Yves Pagès. Nous discutions de portraits crachés.
Merci à vous.